Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Bonjour à tous, bienvenue dans Ça déraille, l'émission qui réalise de très très grands quiz que vous pouvez retrouver sur YouTube. D'ailleurs, allez le voir en masse, on en a besoin. Sinon, je ne sais pas si vous avez vu, mais le cyclisme a bien commencé cette saison. Ça tombe bien parce qu'on va en parler. On va parler de tout ce qu'on a vu, quels enseignements en tirer depuis le début de l'année. Et puis on en parle tout à l'heure avec les meilleurs experts du Het Nieuwsblad. Les classiques reprennent pour notre plus grand plaisir. État des troupes avant ce week-end d'ouverture, ça c'est en deuxième partie d'émission. Avant de présenter nos experts, sachez qu'Anthony n'est pas là. Il est banni de l'émission le temps que son melon dégonfle un petit peu. Et ceux qui ont vu le quiz savent pourquoi. Ceux qui n'ont pas vu, bah, allez voir, bien sûr. Je ne sais pas si je l'ai dit. Allez le voir sur YouTube pour voir en masse,
etc. Mais tu peux le redire.
Oui, bah, je vais le dire. D'ailleurs, aussi, Anthony, deuxième chose. Si tu nous écoutes, on l'espère, par pitié, arrête les barbecues arrosés avec Julien Lafilippe parce que le Fever, il n'en peut plus. Donc, si jamais tu nous écoutes, Anto, ce soir, il faut arrêter tout ça. On en parle d'ailleurs aussi de ses propos de Lefebvre sur Julien Alaphilippe. Ce sera dans On attaque, on n'attaque pas entre les deux différents thèmes. Donc, vous l'avez vu normalement, vous pouvez le voir pour ceux qui nous regardent. Vous nous écoutez, vous allez pouvoir l'entendre. Jérémy Sakian, le meilleur élève, le maître du quiz, est présent avec nous.
Salut Johan, salut à tous. Et une précision quand même par rapport à l'absence d'Anthony. Je lui ai demandé pourquoi il venait pas. Il me dit les courses, le vrai vélo n'a pas commencé, les vraies courses n'ont pas débuté. Je dis il y a le Het Nieuwsblad. Et il me dit on en parlera après. Je suis pas visionnaire. Donc c'est te dire la motivation du gars et le boulard qu'il a pris depuis sa victoire au quiz.
Lui, ce qu'il veut, c'est juste gagner les quiz. D'ailleurs, voilà. Il y a Cactus sur un vélo qui dit vous croyez vraiment qu'il écoute l'émission s'il est pas dedans? C'est vrai. Il a pas tort.
Ça peut arriver. Hein.
Ouais. D'ailleurs, j'ai dit meilleur élève aussi, Jérémy. Oui. Pas tout à fait.
Si.
Non, il y a eu une petite erreur.
Ah bon
de cela maintenant une ou deux semaines.
Ah bon?
Puisque combien on va gagner au quiz déjà par rapport à ce que nous rapporte la vidéo?
Pas beaucoup.
Zéro. Parce que évidemment il a utilisé une seule chanson, ça a été démotivé.
Bon, passons à la suite.
Oui, pardon, à cause de ça. Théo est avec nous, qui n'était pas présent pour le quiz, mais qui va pouvoir se rattraper tout à l'heure peut-être. Salut Théo.
Hello, bonjour à tous, bonjour.
Et l'intro était un petit peu longue, mais je vais présenter le nouvel arrivant, celui qui est derrière velonews.be, attention, c'est important, notre belge spécialiste, peut-être celui-ci. Olivier, comment vas-tu?
Très très bien, content de vous retrouver après les podcasts sur le cyclocross. Donc voilà, merci de m'avoir invité et donc voilà, on va essayer de faire le mieux pour cette année, voilà.
D'ailleurs, Olivier, qui ne voulait pas venir à la base parce qu'il est un petit peu malade, et puis finalement il est venu, ouais, quand il a vu que ça partait en tous les sens avec Patrick Lefebvre et Julien Alaphilippe, s'est dit c'est bon, allez, j'enlève mon plaid et j'arrive avec nous. Bon, l'intro était longue,
interminable.
Ça, c'est fait.
Elle a été interminable, ton intro.
On va pouvoir tout doucement commencer, on va assurer le tempo.
Putain, t'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer et puis il va aller faire du tempo maintenant, hein.
Alors, dans...
Oui. Très fan du nouveau jingle.
Merci beaucoup. Dans Assurer le tempo, aujourd'hui, on va... je vous ai demandé vos trois points de ce début de saison. Qu'est-ce que vous avez retenu par-dessus tout dans ce début d'année, cette année 2024 ? Jérémy, tu peux commencer. Qu'est-ce que tu as retenu en regardant les différentes courses depuis le début de l'année ?
Mes trois points. Le premier, c'est SD Works. C'est reparti de plus belle et peut-être même encore plus fort qu'en 2023. Donc, ça ne me rassure pas. Inquiet pour Wout. Peut-être qu'on en parlera avec Olivier. Et impressionné par le début de saison de Decathlon et G2R.
C'est vrai. Théo, à toi.
Moi, j'étais... il n'y a qu'un mois de vraie compète, mais déjà impressionné par l'équipe UAE quand même. Qui j'ai l'impression roulotte quand même sur les courses par étapes. J'ai mis la Soudal et ses jeunes pousses quand même, que ce soit Lampertier, Magnier, surtout Le Serre également, qui me fait une très très grosse impression pour l'instant pour ses premiers mois dans les pelotons professionnels élites. Et puis ce qui m'a marqué, c'est pas vraiment une perf, mais c'est plus les courses tronquées qu'on a eu malheureusement à cause des météos, que ce soit à Oman ou en Espagne. Et on sait qu'on justement on aborde une période qui commence à être charnière, et ce manque de kilomètres, même si on essaie de le compenser en s'entraînant et en essayant de trouver autre chose, ça peut peut-être peser. Voilà. On va voir sur la suite.
Les trois points. Alors, Olivier, comme il a été pris de court, est-ce qu'au moins tu peux nous donner deux, trois choses que tu retiens de ce début de saison ?
Clairement, on voit encore le même phénomène qu'il y a quelques années, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sortent quasiment des juniors ou des espoirs, mais qui n'ont quasi que 19-20 ans et qui tout de suite performent. On a vu Del Toro, on a vu Magnier, Lamperti est un peu plus âgé, mais quand même, c'est sa première année pro. Et puis Le Serre, donc voilà, qui confirme. La deuxième chose que j'ai vue, moi, c'est que effectivement, chez les femmes, est-ce que Lotte Kopecky va pouvoir passer un palier et peut-être jouer la gagne sur des grands tours ? Pourquoi pas ? Et contrairement à toi, je ne suis pas trop inquiet pour Wout. Je pense que le Tour d'Algarve m'a rassuré et qu'il va monter petit à petit en puissance et qui sera là vraiment pour ces deux gros objectifs.
On va peut-être commencer par ça. Alors moi aussi j'avais mes trois points, mais j'avais noté les jeunes générations déjà fortes d'entrée, donc on l'a déjà dit. J'avais mis les hommes en forme ont fait plusieurs perfs. Fisher Black, O'Connor, Pedersen, McNulty, Magnier, dès que ça a gagné une fois, ça a gagné encore derrière. Remco parti pour en claquer beaucoup, ça aussi j'avais noté, mais bon, ça en a l'habitude. Et petit bonus, les bordures, bien sûr, qui ont été très présentes depuis le début de l'année. Pas du tout. Merci la Tib de nous assurer sur Twitter qu'il y a beaucoup de bordures. Il n'y en a pas une seule depuis le début.
Il y en a eu un peu sur la dernière étape du Tour de la Provence, mais c'était gentillet.
Ça va. Il n'y avait pas grand chose, pas tout ce
qu'il y en a eu un peu sur Alula aussi.
Bon, oui, un chouïa.
Des
bordurettes. Des bordurettes.
Alors on va commencer, on va rentrer quand même dans le vif du sujet. J'ai l'impression que ce qui fait le plus parler, c'est Wout van Aert. Alors Jérémy, tu l'as dit dans tes trois points, tu étais un petit peu inquiet. Olivier, non. Donc ça va commencer déjà avec ce premier clash entre Français et Belges, on a l'habitude en ce moment. Jérémy, pourquoi inquiet ?
Inquiet parce que il a choisi une nouvelle préparation cette année Wout, en faisant un petit peu moins en cyclocross. Ceux qui ont écouté nos podcasts cet hiver ont eu l'occasion de débattre avec nous, et bon, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce point de vue-là, mais c'est le choix de Wout et il faut le respecter. Mais c'est une nouvelle approche parce qu'il n'a pas réussi à scorer sur le Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix sur les dernières années, et qui dit nouvelle approche dit forcément inconnu. On ne sait pas ce que ça va donner pour Wout. En revanche, on voit déjà que les adversaires sont en grande condition. Mathieu Van Der Poel, j'en parle pas. Tout le monde a vu son hiver. Mads Pedersen, puisque tu l'as cité, a roulé sur l'étoile de Bessèges, a roulé sur le Tour de la Provence. Alors on a beau me dire, oui, il n'y avait pas de concurrence. D'accord, mais il n'était pas obligé à chaque fois de gagner 2-3 étapes et de martyriser tout le monde. Et puis il y avait quand même des coureurs comme Zinglet, comme Armirail qui l'a sorti de la roue sur des bosselettes sur des étapes de plaine. Donc la condition, elle est là chez deux des principaux concurrents de Wout pour ce printemps. Moi, ce qui ne m'a pas rassuré, c'est surtout le chrono. Parce que le chrono, c'est censé être l'un de ses exercices de prédilection. C'est là où tu mesures aussi la puissance et le niveau de forme d'un coureur en début de saison. il est quand même relativement loin. Alors sa victoire, elle va lui faire du bien, sa victoire au sprint, face à des coureurs rapides, mais pas non plus des cadors. C'est pour ça que je vais tempérer un petit peu. Ce genre de succès, ça peut te permettre de passer un cap, mais j'ai quand même l'impression qu'on est toujours dans l'inconnu. On en saura peut-être un petit peu plus ce week-end, parce qu'on arrive avec la grosse armada chez Visma Lease a Bike. Mais oui, des doutes. Des doutes, c'est légitime d'en avoir, ça ne veut pas dire qu'il ne les balayera pas.
Olivier, tu voulais répondre à Jérémy. Tu n'es pas inquiet donc pour Wout Van Aert après avoir vu ces quelques courses de ce début de saison.
Non, je ne pense pas. En fait, le chrono, c'est très spécial. En fait, il a dit à l'interview qu'il n'avait repris le vélo de chrono qu'une seule fois, je pense, à l'entraînement. Or, ça, tu sais bien que c'est une discipline que tu dois tout le temps travailler. Donc, tu ne peux pas reprendre ton vélo de chrono et faire un truc... un truc super d'emblée, quoi. Donc ça, je trouve que c'est un argument qui peut se tenir, mais là on est encore assez loin de ses objectifs, donc je ne me tracasserai pas. Par contre, moi j'ai vu un très bon Wout Van Aert à Benidorm au cyclocross, et là je me suis dit ça y est, là on retrouve le Wout que l'on connaît, qui est sur les rails, et son attaque autour d'Algarve, moi je l'ai vraiment trouvé très très bonne. C'est parce que les Bora se sont alliés avec les Quick-Step. Je pense qu'il y a un petit accord qui s'est passé entre les deux équipes, parce que je ne suis pas sûr que les Quick-Step seuls revenaient sur Wout Van Aert et sur Benelli. Donc ouais. Moi, ça m'a plutôt rassuré de ce point-là. Ouais. Voilà, c'est juste ce que je vois.
Je suis pas sûr
que Wout soit vraiment enclin à vouloir faire déjà une performance au Newsblatt. Ça, je pense pas.
Mais on en saura plus samedi. En vrai, la première vérité, on la saura samedi, en fait.
Alors, justement, je voulais entendre l'arbitre, parce que, voilà, entre les deux, il y a Théo. Dans quelle situation tu te mets entre l'inquiétude et la non-inquiétude ?
Moi, je suis plutôt sur la non-inquiétude, parce que je suis parti du principe que je pense que cette année sera beaucoup plus prolifique pour lui. Mais... Faut pas se leurrer, que ce soit Pedersen à la Provence, que ce soit les autres ailleurs, même si Van Der Poel n'a pas encore repris. Ces courses-là, même si elles servent d'étalonnage, on peut pas en conclure grand-chose. Pour moi, le premier test, et vu l'armada qu'il y a chez Visma dès samedi, je pense que ce sera là. Et je pense que Van Aert, même en interne, a besoin aussi, même si son statut fait qu'il sera toujours coureur préservé, coureur protégé. Vu ce qui se passe derrière lui avec Laporte, avec Tratnik, avec Jorgensen qui fait son apparition cette année, même en interne, il va falloir qu'il prouve. Et je pense, moi, que samedi, il va vouloir se montrer.
Bon, et samedi, on aura le temps samedi, on parle de l'Umloop Het Nieuwsblad. On aura le temps d'en parler en deuxième partie. J'ai compris votre inquiétude ou pas, d'ailleurs, autour de Wout Van Aert. On va pouvoir avancer tranquillement parce qu'on a vu donc la Visma. On a vu beaucoup UAE depuis le début de la saison, Théo. D'ailleurs, c'est ce que tu voulais souligner. Ouais. UAE qui est en train d'écraser un petit peu tout depuis le début de la saison. Heureusement, O'Connor a réussi à gagner du côté de l'UAE. Sinon, c'était quasi un triplé pour AE. Enfin, bref. Tout ça pour dire, depuis le début de la saison, dès qu'ils sont là, ils gagnent.
Bah, c'est pas vraiment une surprise, parce que l'effectif qu'ils ont sur les courses par étapes, il est pléthorique. On l'a senti sur les premières interviews qu'on a eues en janvier. En plus, ils ont voulu, dès le mois de janvier et de février, préparer ces courses-là, même de reprise, avec des blocs à deux leaders, que ce soit sur le Down Under, que ce soit sur les courses du Moyen-Orient, etc. Et bon, le petit impair, finalement, c'est aujourd'hui, c'est la chute d'Adam Yates, parce que j'imagine qu'elle n'était pas du tout prévue, et même si McNulty avait remporté ce contre-la-montre hier, je pense qu'Adam Yates, c'est une jambe au-dessus de tous les grimpeurs lorsqu'il y a une arrivée en bosse. Il l'a montré à Oman, où je pense qu'il a fait de la patinette derrière Yann Hirt, il était à l'entraînement, franchement. Je suis pas sûr que Jabel Hafid soit assez dur pour qu'il puisse faire de grosses différences, mais en tout cas c'est une vraie perte pour eux. Et puis ce week-end aussi, il faudra pas oublier, en France il y a des courses, hein, il y a les boucles de Romardèche qui sont souvent des très belles courses pour grimpeurs. Hâte de voir ce que peut faire un Marc Hirschi par exemple, qui sort lui aussi d'une
Ayuso sera là aussi, hein, il me semble,
sans grand tour. Donc moi j'ai l'impression qu'ils peuvent gagner partout. La seule petite déception finalement chez UAE, c'est la reprise de Molano, qui, même sans être un cador sur les top 3 du sprint mondial, était quand même un peu en retrait par rapport aux autres.
Oui, oui, alors il me semble que Ayuso sera là pour ce week-end aussi, dans la mesure où la route
ouais,
du sol a été, réduite.
Il s'était enlevé, revenu, enfin bon, bref.
Oui, alors à confirmer, mais bon, il devait y avoir 5 jours de course la semaine dernière sur la route del Sol, il n'y a eu que 5 bornes de chrono. Ayuso à la forme, il a fait 2, mais je crois qu'il veut un petit peu enchaîner. Non, simplement pour tempérer quand même par rapport à UAE, sur les courses qui comptent, sur les courses par étapes pour le Tour. L'année dernière, c'est 2 victoires. Pour l'instant, le Down Under a été perdu et l'UAE, il n'est pas encore gagné. Donc oui, ils sont en forme. Ça, évidemment, on s'y attendait. Ils ont recruté en conséquence et il y avait déjà une équipe pour rouler sur tout le monde. Mais attention à ne pas finir la semaine à 0 sur 2, quand même.
Mais n'empêche que pour toi, UAE surperforme ou
non,
pas
non, c'est, non, pour c'est, moi, UAE est à son niveau. Et...
Non, ils sont dans la normalité de leur. De leur
ouais, mais
de leur
la normalité, c'est que le fait, c'est le fait d'avoir un effectif aussi gargantuesque et qu'on trouve ça normal.
Oui.
D'avoir Almeida, Ayuso, Pogacar, Sivakov, Yates, Vine dans la même équipe, c'est ça la normalité.
Et puis des coureurs qui perfent d'entrée, Del Toro, Fischer Black,
ouais, Del Toro,
voilà,
j'ai oublié Del Toro,
ils sont déjà là. D'ailleurs, Olivier, c'est là, je fais une passe décisive puisque on parlait de la jeune génération. Ils font partie des coureurs que je suppose qui t'ont attiré dans ce début d'année. Ça fait partie de la nouvelle génération qui performe déjà. Il n'y a pas que, hein, mais ça fait partie.
Alors, effectivement, mais évidemment, on est impressionné, mais c'est à tempérer. C'est-à-dire que les jeunes coureurs sont souvent très forts en début de saison. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore. Enfin, ils arrivent carrément frais, eux. C'est parce qu'ils sont tellement motivés, ils sont tellement. Bref, ils ne sont pas encore dans un cycle d'entraînement prévu par leur nouvelle formation, par la formation pro. Et donc, ils arrivent après leur premier stage chez les pros, tout motivés, tout fort, tout ça. Et puis, on a déjà vu que Del Toro déjà régresse un petit peu parce que les pros commencent à récupérer leur vrai niveau.
Tu parles de régresse parce qu'il a abandonné, parce qu'il a pas réussi à monter.
Il régresse
chrono,
comment Il a fait quatrième du chrono en Algarve.
Je pense qu'il a fait la patinette les autres étapes. Il s'est dit, je me mets tout sur le chrono pour voir ce que
moi, je veux bien régresser comme ça. Hein.
t'es presque au même niveau.
Oh, mais moi, je parlais de la course de Figueras classique. Où il essaye de suivre Remco et puis après il l'est à 3 minutes. Mais
d'accord, non,
ça,
mais bon. Et oui, bah, ça, il s'est fait sauter le caisson. Mais bon, ils ne sont pas nombreux, hein, seuls dans le peloton à pouvoir suivre Remco.
Déjà une course au Portugal, est-ce que c'est une course
il m'a carrément bluffé, oui.
Ouais, il y a eu d'autres coureurs d'ailleurs, on peut en parler gentiment. Donc on a
parlé Delto. Oui. Qu'ils ont vraiment une bonne école au niveau chrono. Oui. UAE a vraiment mis le paquet de l'année passée. Et je pense que ça se voit, on l'a vu avec Almeida au Giro. On l'a vu aussi avec Jevine et je pense que maintenant UAE va devenir une référence au niveau chrono, tout comme la Jumbo, tout comme peut l'être aussi la Soudal, mais dans une moindre mesure. Donc ça va être très 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 intéressant. Ils ont d'ailleurs acheté Duarte Marivoute, qui est un jeune belge champion de Belgique junior du chrono avec un potentiel, et ils l'ont pris expressément pour ça. Donc il a un peu le même profil que Bjerk. Et donc, je suppose qu'on va le voir aussi cette année, même s'il est avec l'équipe développement, on va le voir aussi sur des chronos cette année.
Juste quand même, parce qu'on est avec Olivier, j'aimerais ton point de vue sur les performances de Kian Uytebroeks en chrono. Parce qu'on avait deux Belges l'année dernière dans l'équipe et ils n'étaient pas souvent d'accord.
Et l'autre disait que non.
Donc maintenant qu'il est chez Visma Liesebike, t'en attends quoi de Kian?
En fait, moi, je connais Kian parce que je gère son fan club avec ses parents.
Ah voilà, voilà. Ah, voilà, bah, moi, on est mal barré.
Voilà, voilà. Donc moi, je connais très bien Kian. En fait, ce qui s'est passé chez Bora l'année passée, c'est qu'on ne lui a fourni son vélo de chrono que l'année passée. Donc avant, on ne lui a pas fait travailler, alors qu'il était quand même vice-champion d'Europe chez les juniors. Et je pense qu'au Mondiaux, il faisait sixième. Donc c'était quand même quelqu'un qui avait des qualités. Mais Bora n'a jamais cru en lui au niveau chrono. On lui a même dit qu'il ne valait rien, enfin qu'il ne ferait jamais. Alors que maintenant, je sais que ça se passe très bien avec la Jumbo, qu'ils ont rectifié sa position et qu'ils ont fait des tests aussi et qu'il a déjà augmenté toutes ses valeurs. Donc je pense qu'on va revoir un Kian. Au chrono qui va quand même faire mieux que ses anciennes sorties. Donc oui, donc moi je suis confiant.
Bon. Intéressant quand même ce point de vue.
Au moins, ça répond un petit peu à donc ces différents points de vue qu'on a parmi de nos chroniqueurs, notamment un chroniqueur belge. Je veux donner la parole à Théo parce que en début d'année, on avait fait les projections sur l'année 2024 et il avait parlé des espoirs, notamment, si je me souviens bien, sur les Français à la Soudal. Est-ce que je me trompe pas, je crois, Théo, c'était ça. Et,
merci de le souligner.
Voilà. Et pour l'instant, tu es plutôt bien parti puisqu'on a vu un Paul Magny que... On va pas se mentir, pour les observateurs un peu éloignés, ils connaissaient très peu. C'était pas le crack attendu chez les jeunes comme un Romain Grégoire par exemple. Mais là, il performe beaucoup vu qu'on reste un petit peu dans les jeunes.
Oui, après, comme a dit Olivier, justement, c'est à tempérer aussi par ces courses de début de saison. On avait vu, par exemple, souvenez-vous, Intermarché l'année dernière qui marchait sur l'eau pendant un mois. Et puis au moment des classiques, même s'il y a eu des maladies et des blessures, ils n'ont pas eu de chance. Et ça a disparu très vite. Alors évidemment, je ne le souhaite pas à Paul Magny et à la jeune garde de la Soudal, mais pour moi, c'est logique de les voir, c'est dans une certaine logique de les voir performer là, parce que évidemment, il y a, comme l'a dit Olivier, il y a de l'envie, il y a de la motivation, et surtout, ce qui est intelligent de la part de cette Soudal Quick-Step, c'est qu'on leur a fait de la place également. Mmh. C'est-à-dire que même sur ces courses-là de reprise, je pense que... Ils ont prouvé sur les deux camps d'entraînement, que ce soit en décembre ou en janvier, qu'ils avaient les watts pour aller faire déjà des choses chez les pros. Et là aussi, je trouve ça intelligent dans la gestion collective. Maintenant, moi, ma vraie interrogation, c'est justement, comme le disait Olivier, de voir sur une saison complète. Est-ce qu'ils vont pouvoir performer sur tout au long d'une saison, ou est-ce qu'on est plus sur vraiment des pics abrupts en raison de leur âge et de leur entraînement? Moi, je suis en tout cas très, très curieux de voir ça. Et bon, là, ce qu'on voit, c'est que William Le Serre, même sur les courses par étapes, il enchaîne, que ce soit à l'Oulatour ou là au Rwanda, même si la concurrence est un peu moins forte. Ces courses-là, ça elles servent aussi à prendre de l'expérience et à prendre du leadership. Donc, pour moi, c'est tout bon pour les jeunes de la Soudal pour l'instant.
Il fait même les sprints, Le Serre d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas vraiment un peloton de cador à ce niveau-là. On va faire deux derniers thèmes, je pense, parce que je trouvais intéressant de parler de le début de saison de G2R Décathlon.
C'est dans l'autre sens, mais oui.
Décathlon AG2R. Ah ouais, mais alors là, mais le problème, c'est que vu qu'ils changent tous les deux mois, évidemment.
Et la forme à fond. Hein.
la forme, voilà.
Bravo, Théo.
C'est vraiment plaisant ce qu'on voit depuis le début de l'année. On a vu Cosnefroy gagner, on a vu O'Connor gagner, on a vu, par exemple, Degotera aussi faire de belles performances. Je cite que, mais il y en a beaucoup. Jérémy, ça, là aussi, on parlait du AE, c'est normal, mais là, on va dire, c'est quand même une petite surprise de voir Decathlon autant gagner. Je veux dire, ça reste quand même une équipe de World Tour qui a le droit de faire de belles performances.
Alors, c'est une surprise pour les suiveurs qui restent sur une année 2023 qui globalement a été décevante. Je pense que c'est pas une surprise en interne, parce que pour avoir discuté avec certains acteurs de cette équipe, il y a eu un hiver agité en coulisses, avec une nouvelle mode de pensée, de nouvelles façons d'agir, une restructuration. On a repensé les bases pour un projet à moyen long terme. L'ambition cette année, c'est de faire entre 12 et 15 au classement World Tour. C'est d'essayer d'aller chercher des top 5 sur les différents grands tours, avec O'Connor, Giro Vuelta et avec Félix Gall sur le tour. Il y a aussi un nouveau partenaire, l'équipementier Van Rysel, avec qui ça s'est visiblement très bien passé pendant l'hiver. On a énormément travaillé le chrono, on a développé des machines dont les coureurs sont assez satisfaits. Et je pense que ce nouvel élan, le recrutement aussi a fait du bien, va permettre à cette équipe de retrouver la confiance. Quand on gagne, ça se passe toujours mieux. Mais comme tu l'as dit, il n'y a pas que des victoires. Il y a Sam Bennett qui fait deux du dernier sprint, mais qui bat Pedersen. Et qui aurait pu gagner s'il n'avait pas lancé 10 mètres trop tôt. Pierre Gautrin, tu l'as cité. Armirail qui fait des très bons chronos. Félix Gall en reprise, c'est difficile de le juger sur 5 bornes, mais son premier gros objectif, c'est Paris-Nice. Ça arrive, donc on sera très vite rassuré ou pas. Mais en tout cas, il y a eu du travail d'effectuer cet hiver chez Decathlon AG2R et on en cueille les fruits très rapidement. Maintenant, les gros objectifs arrivent, donc c'est là qu'il faudra être présent. Mais déjà, la victoire World Tour du jour, je pense, va mettre du baume au cœur à beaucoup de monde.
Ouais, et ça confirme. Il y a
un petit emmerdement quand même dans la liste.
J'ai pas compris.
C'est-à-dire ?
Oublier un petit emmerdement quand même dans la liste.
Oui. Non, mais là, moi, je reste sur le sportif.
Oui,
je reste évidemment sur
Franck Bonamour qui a donc été
Oui, mais en plus, ça, c'est une affaire qui remonte avant sa signature, ouais. Donc ça a traîné, ouais. Etc. Et je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais en tout cas, sportivement, on les voit partout. Parce que même Cosnefroy, quand il gagne, ils sont 3 dans le top 7. Bon, tu vois, il y a quand même le maillot bleu et blanc, là, on
c'est
le voit
UAE,
partout.
Mais hein. Sur les courses françaises.
Ouais. Non, mais enfin, c'est pas le fruit du hasard. Hein, parce que rien n'est jamais le fruit du hasard. On a vraiment bossé dans cette équipe. On a repensé toute la structure, ouais. Mais vraiment du staff aux sponsors, aux coureurs. Tout a été réfléchi et il y a un gros boulot qui a été fait.
Bon, je voulais aussi faire un dernier thème sur les filles, parce qu'on pense toujours aux filles, bien sûr, ici, chez les dames, avec déjà quelques courses aussi depuis le début de la saison. Il y a une course du côté de Valence qui vient de se terminer. On a vu la victoire de Marine Rösser. Mais avant ça, on a vu Kopecky sur UAE, c'est ça, si je me trompe pas.
Ouais.
Voler en montagne, c'était dans vos trois points, Olivier et Jérémy. Olivier, je vais te donner la parole. Tu vous parlais de Kopecky qui pourrait gagner des classements généraux avec du dénivelé sur le parcours, c'est la direction qu'elle prend, c'est ce que tu imagines, ce que tu vois en tout cas.
Moi, je pense qu'une fois qu'elle aura gagné, qu'elle se sera entre guillemets lassée des autres classiques, je veux dire, une fois qu'elle aura gagné Paris-Roubaix, parce que ça, je pense que c'est vraiment ce qui lui manque au niveau palmarès. Une fois qu'elle aura gagné ça, je pense qu'elle va se donner des autres défis et qu'elle va aller peut-être encore plus loin, oui. Parce qu'elle a vu qu'elle avait les capacités, même si il faut quand même un peu relativiser, c'était pas la concurrence du Tour de France à l'UAE Tour, mais quand même.
Il manquait pas grand monde quand même. Hein.
Il y avait quand même Mavi Garcia, qui n'est pas une mauvaise grimpeuse. Ouais.
Il manquait pas grand monde, hein, à part Vollering, Realini est là, Longo Borghini était là, tu l'as cité, il y avait Garcia, il y a Bradbury qui est leader du World Tour, qui est en train de devenir une bonne grimpeuse, Marion Bunel qui a fait un début de saison sensationnel, Decador, il manquait Nievi Adoma et Vollering, hein, et Juliette Labousse qui est rentrée après à Valence, mais sinon, parmi les grimpeuses, il y avait un très très beau plateau en UAE. Hein.
Mais d'ailleurs, je te donne la parole, est-ce que ça va pas être un problème, Kopecky-Vollering, dans le futur, parce qu'elles sont à peu près le même âge? Si ma mémoire est bonne, ça doit être assez proche. Et si jamais l'une veut marcher sur les plates-bandes de l'autre, on sait que les SD Works adorent avoir plein de leaders, mais bon, il y a quand même des.
Regarde le sprint du dernier.
Oui,
des derniers Bianchi.
Ouais, bien sûr.
Oui, elles peuvent se marcher sur les pieds. Alors pour cette année, je pense que les rôles seront répartis différemment, évidemment. Puisqu'il y a les Jeux, que l'Omnium se court la veille du départ du Tour de France Femmes.
Oui.
Et je suis pas certain que le Kopecky soit au départ du Tour. Donc si on se dit que Kopecky, tu lui donnes le leadership sur le Giro ou la Vuelta et Vollering fait le Tour, je pense qu'on se marchera pas dessus. Maintenant, sur les classiques, ça peut poser problème, évidemment. D'autant que Kopecky s'est engagé sur du long terme avec SD Works, elle a signé jusqu'en 2028.
Ouais.
Donc oui, ça peut se marcher dessus, ça se marchera un petit peu moins dessus l'année prochaine avec Rösser, puisque vraisemblablement elle partira. Mais on est reparti en tout cas pour un nouveau cycle d'ultra-domination.
Olivier, tu voulais reprendre la parole avant qu'on passe à autre chose.
Oui, non, je pense que cette année, il y aura encore moins de suspense que l'année passée au niveau...
Lui, il veut nous flinguer le moral, ça y est.
On est
en février, il veut déjà nous démolir le suspense.
Mais il faut vraiment être réaliste. Moi, personnellement, j'aurais bien aimé qu'elle signe chez AG Insurance, donc l'équipe de l'oncle Pat, parce que comme ça, il y aurait eu deux blocs et là, on aurait eu du suspense. Or là, elle re-signe chez SD Works. Entre nous, elle a quand même bien raison parce qu'elle a tout ce qu'il lui faut là. Elle a l'encadrement.
Oui, l'argent.
Elle ne voulait peut-être pas partir dans l'inconnu, mais j'aurais bien aimé qu'elle signe quand même dans une autre équipe pour au moins voir des matchs, quoi. Au moins voir de la concurrence sur certaines courses. À l'Amstel, l'année passée, elle fait le lead pour Vollering, mais si elle ne le faisait pas, elle gagnait quand même. Donc, c'était un peu bizarre. Enfin, il y a des courses comme ça où tu te dis...
Oui, mais tu sais, il y a beaucoup de choses bizarres. Hein.
Tu veux dire...
Non, mais moi, je vois Lorena Vibos, qui est quand même la Philipsen du cyclisme femme et qui est devenue une super grimpeuse depuis quelques temps. Kopecky, même là, on parle d'elle comme une future vainqueur de Grand Tour et je pense qu'elle finira par en gagner. C'est aussi très impressionnant la manière dont elle s'est développée. Jusqu'à il y a 6 mois, moi je l'imaginais pas pouvoir rentrer un jour dans le top 10 d'un grand tour. Donc c'est difficile de se projeter parce que les choses évoluent très vite. Et comme le cyclisme féminin n'est pas du tout au même état d'avancement que le cyclisme masculin, parfois on est un petit peu surpris des évolutions parce que ça va beaucoup plus vite. Pour ce qui est des blocs, équipes, on va quand même se méfier de Canyon qui a du potentiel et des coureuses de grand talent. Et je ne parle pas que de Nievia Doma, parce qu'Elise Chabet est là, parce que Bowen Find doit confirmer sa c'est saison, que parce beaucoup. Que Zoé Backstedt a signé là-bas, et puisqu'on a quand même une équipe française en World Tour qui fait partie des principaux acteurs, FDJ Suez revient aussi avec de l'ambition, avec Cavalli, avec Utrup et avec évidemment Evita Music. Donc je ne suis pas certain que ce soit pire que l'année dernière, mais je crains que ce soit dans les mêmes eaux si les équipes adverses ne s'entendent pas. Et puis je rajouterai aussi Lidl Trek hein, avec Longo-Borghini et surtout avec Realini qui a certainement quoi jouer.
Bon, on s'arrête sur la première partie parce qu'on est très long. Je sais qu'Olivier, tu veux prendre la parole, mais il y aura beaucoup de choses à dire dans cette émission. Donc on va passer tout de suite à On attaque, on n'attaque pas. Il n'y a qu'un seul thème dans On attaque, on n'attaque pas et vous allez comprendre pourquoi.
Attaque de Pierre Rolland, encore une fois. Personne ne réagit.
On va donc parler des propos de Patrick Lefebvre, donc qui s'est penché dans.
C'est déjà, point prononciation, Olivier, on est sûr de Lefebvre ?
Bah. Oui. C'est bon.
Si tu dis comme ça, on dit comme ça.
Moi, je sais pas. Moi, j'essaye de le prononcer à la belge.
C'est agréable. Mais j'attends quand même de vous une prononciation correcte de Rule St. Martin's Dake quand il faudra le dire.
Rule St. Martin's Dake, effectivement, c'est le sprinter là, qui a un frère en plus.
Super, mais heureusement que je ne commande pas de course en ce moment. Je fais un petit résumé de ce qu'a dit Patrick, comme ça je ne vais pas dire son nom de famille, comme ça on est tranquille.
Non, mais si c'est validé, moi, ça me va. Hein.
Sur Julien Lafilippe, donc, je pense que chez lui, il y a eu trop de fêtes et trop d'alcool, il est sérieusement sous le charme de Marion. Peut-être trop. Voilà donc ce qui a été traduit. Traduit, je dis bien, parce que là, dernièrement, il est revenu sur ses propos en disant que ce qui était passé du néerlandais à l'anglais avait été un petit peu transformé dans les propos. Mais bon, j'ai quand même quelques doutes là-dessus. Il y a quand même, dans le cœur du propos, il y a quand même quelque chose. Je vais donner la parole à Théo parce qu'il n'était pas.
Cycliste féminin, on l'a pas trop entendu.
Donc, du coup, j'ai demandé la parole à Théo.
Je vous ai laissé, moi.
Pour essayer de savoir, est-ce que tu comprends cette sortie, déjà, avant de parler des réponses, cette sortie de Patrick Lefebvre dans la presse?
Mais au-delà du contenu, même en tant que dans la fonction de Patrick Lefebvre, faire cette sortie-là à 3 jours de la course de rentrée en Belgique, moi, je ne comprends pas, ne serait-ce que d'un point de vue sportif. À la limite, si tu veux tenser tes coureurs parce qu'ils sortent en avril d'une campagne de classique où il n'y a pas eu un top 10, où tu as un Julien Alaphilippe que tu payes 2 millions d'euros par an et qui n'a pas été en mesure de se montrer et d'être performant sous ton maillot, je peux comprendre qu'il y ait des sorties, comme il l'a fait l'année dernière d'ailleurs. Mais là, d'autant plus que pour l'instant, le début de saison de Julien, il n'y a aucun indice qui laisse percevoir qu'il y a une certaine lassitude ou une certaine baisse de niveau. Et sur le plan de la confiance, pour moi, elle est dramatique. Parce qu'en plus, samedi, il aura le dossard 1 de son équipe. Et je ne vois pas comment Julien Alaphilippe va pouvoir mettre ça de côté, en tout cas sur ses premières courses. Je trouve ça affligeant.
Et la presse qui va sûrement lui en parler, et c'est sûr que c'est difficile ensuite de se concentrer dans la course avant de donner la parole à Olivier pour savoir ce que ça, qu'est-ce qu'on dit en Belgique. Patrick Lefebvre donc a dit « Mes mots en anglais sans le contexte de l'interview semblent plus lourds que ceux que j'ai prononcés en néerlandais. » Le manager indique que sa réunion avec Alaphilippe datait de novembre 2022, donc il a tenu ses propos à Alaphilippe donc en 2022, mais il les a relayés maintenant et que le Français depuis n'a plus bu. Alors Olivier,
non mais il a dit ça ?
Oui,
mais c'est lunaire comme déclaration. Il a plus bu. Il a dit ça.
Il est marqué. Le manager indique que sa réunion avec Alaphilippe datait de novembre 2022 et que le Français n'a plus bu depuis. Olivier, on en dit quoi ?
Le ridicule ne tue pas. Hein.
On en dit quoi en Belgique ? Parce que chez nous, Français, notre cœur est touché. Mais est-ce qu'en Belgique, on comprend, on est à fond derrière Tonton Pat ?
Ben, pas vraiment. En fait, il faut savoir que l'ADH avait fait un sondage il y a quelques années pour voir quel était le sportif étranger préféré des Belges. Et 2 années de suite sont sortis Julien Alaphilippe. Donc, Julien est très apprécié chez nous.
Et donc, ces propos-là, ils ne sont pas passés comme les autres. Avant, on aurait pu dire, comme ces autres déclarations, ok, c'est de l'oncle Pat craché, voilà, il met un petit coup de sang pour motiver. Enfin, c'est quelque chose qu'on entendait peut-être il y a 10 ans. Il a peut-être fait la même chose avec Tom Bonin quand il avait déconné dans des boîtes nuit, qu'il a pris des stupéfiants. À une époque, Tom Bonin a eu une période un peu chaotique aussi, un peu où il était dépressif, etc. Et je suppose que le feu vert l'avait recadré de la même façon qu'Alaphilippe, et ça avait été gagnant, puisque après Bonin avait continué à gagner. Bref, il a peut-être voulu faire ça avec Alaphilippe, c'était ce qu'on se dit, mais en tout cas, c'était malaisant, dans le sens où un patron, il a quand même des droits, et au niveau légal, ça ressemble plus à du harcèlement qu'autre chose. Ce sont des propos qui ne passent pas. Tu peux le dire en interne. D'ailleurs, c'est ce qu'on a mis sur notre site. Au début, on ne voulait pas relayer l'information. Et puis, on s'est dit, mais de toute façon, ces déclarations-là, elles vont sortir partout. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un florilège de ce qu'il a raconté dans le journal Humo. Donc, nous, on l'a bien, bien, bien traduite. Donc, avec les mots justes. Donc, quand tu dis qu'en anglais, ça passe mal, ben non, puisque ça vient...
Ah, mais Olivier, on va pas se mentir. Le problème, c'est qu'il a le juridique au cul.
Évidemment.
Qui fait très attention. Bien sûr. Parce que là, il y a des gros sous qui sont en jeu.
Oui, et surtout que les syndicats ont réagi, d'ailleurs, enfin, par la voix de Pascal Chanteur notamment. Ils ont réagi en disant que si jamais il fait appel aux syndicats, ils réagiront. Donc,
mais là, honnêtement, hein, j'ai l'impression qu'on sous-estime grandement l'ampleur de cette affaire. Excuse-moi, Olivier, mais c'est pas malaisant. C'est inadmissible ce qui s'est passé. Combien de fois, ici même, dans le podcast, on a parlé du management toxique de Patrick Lefebvre. Le linge sale, il se lave en famille. Ça en dit beaucoup sur son mode de gestion des coureurs. Il jette en pâture dès que ça va plus. Il était bien content d'avoir Julien Alaphilippe quand il était double champion du monde, quand il gagnait Milan-San Remo, quand il enchaînait les perfs. Là, aujourd'hui, ça va plus, donc on trouve des coupables. Une petite crotte aussi sur le cyclisme féminin, une autre sur Marion Rousse. Ça en dit beaucoup de qui est ce personnage et de sa manière de manager. Ce serait n'importe quel salarié dans le privé, dans le public, en dehors du vélo. Tout le monde serait outré. Il aurait les syndicats au cul, le juridique, comme le dit Théo, etc. Et là, parce que c'est Julien Alaphilippe, on en fait un débat. Il n'y a pas de débat. La sortie, elle est inadmissible. Total soutien aux coureurs.
Olivier, vas-y.
Même au-delà de l'argument du contrat, personne n'a mis un pistolet sur la tempe de Lefebvre pour prolonger Julien un tarif qui, en plus... je pense, aurait pu se monnayer bien plus haut dans d'autres équipes.
Olivier, vas-y, tu peux prendre la parole pour continuer ce que tu voulais dire.
Nous, en fait, on avait relayé les propos, finalement, de Lefebvre, mais on avait mis en dessous que la liberté d'expression avait ses limites et que dans ce cas-ci, c'était quand même inadmissible et que ce n'était pas la bonne méthode et que, honnêtement, c'était, il avait passé une limite là, il avait franchi une ligne rouge. Moi, je trouve ça désolant parce que ça donne une mauvaise image de l'équipe alors que ça se passe bien en fait avec certaines personnes. On l'a vu avec Manier, on l'a vu avec Lamperti. Il y a un encadrement qui est bon, qui est professionnel, genre Tom Staels. Tous des gens comme ça qui sont vraiment dépassionnés et qui font du beau boulot avec Manier pour l'instant. D'ailleurs,
pardon Olivier, mais les performances sportives du début de saison, pour moi, c'est pas du tout à mettre au crédit de Patrick Lefebvre dans cette histoire-là. La ligne rouge, pour moi, elle est franchie depuis bien longtemps et que qui gagne ou pas des courses, ça change absolument rien à ces sorties qui sont lamentables.
Ouais, c'est tout à fait ça. Donc là, je trouve que il devrait quand même. Mais il y avait déjà eu un épisode comme ça, rappelez-vous, avec Sam Bennett. Hein. Où il avait dit des choses dans la presse qui étaient déjà condamnables, où il lui disait qu'il était dépressif, je ne sais plus quoi, mais c'était aussi borderline.
Oui, c'est toujours borderline.
Et d'ailleurs, Sam Bennett était parti, était retourné chez Bora, parce qu'il y avait eu un clash avec Patrick.
Qui voulait aussi s'en débarrasser pour son contrat. Je veux enchaîner parce qu'il faut qu'on gagne un petit peu de temps parce qu'il y a un effet boule de neige derrière parce qu'il y a eu des propos sur Marion Rousse. Marion Rousse qui a réagi. La compagne de
Julien Alaphilippe. C'était pas très inspiré non plus, mais elle a raison de se défendre dans le fond.
Voilà, pour répondre parce qu'elle a été citée quand même par Patrick Lefebvre. Ensuite, ce qui est magnifique aussi, c'est que c'est cette fois-ci la compagne de Philippe Gilbert qui s'en mêle en disant à Marion Rousse de se taire parce qu'en gros, il y avait des choses plus grave encore qui se passait qu'on ne disait pas. En tout cas, tout le monde est en train de prendre la parole dans cette histoire.
Sauf un. sauf le principal concerné, que je trouve quand même très solide, et Théo a insisté là-dessus, et je pense que c'est la morale de l'histoire, c'est que le seul dont on doit prendre la défense et à qui il faut penser aujourd'hui, c'est Julien Alaphilippe. Dans quel état psychologique est-ce qu'il va se trouver au moment d'aborder ses principaux objectifs? Parce que là, c'est le Het Nieuwsblad, mais le Ronde est dans un petit peu plus d'un mois, c'est son principal objectif de la saison. Est-ce que vraiment, là, tu mets ton coureur dans les meilleures dispositions pour performer? Vraiment?
Bah non. La réponse est non, même si on va pouvoir en parler juste après. Je donne la parole à Théo, qui est toujours l'arbitre de un petit peu dans tout ça, la parole de la sagesse, on va dire, parce que pour une fois, Jérémy a enflammé. C'est ce
ouais,
qu'on
mais je suis énervé, mais je suis énervé parce que ça fait combien de fois qu'on fait le même débat sur le fait vert et on attend à chaque fois la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Mais le vase, il s'est déjà renversé depuis deux ans.
On va essayer de penser aussi à la suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes que, par exemple, Julien Alaphilippe doit mettre fin au contrat? Ça peut être fait hein, par rapport à ce genre de harcèlement. Est-ce que ça veut dire qu'on va voir Alaphilippe faire autre chose
après,
et comment ça peut se résoudre tout
j'ai,
ça.
J'ai pas les notions juridiques pour tenir de tels propos.
Oui, bien
mais
sûr.
Moi, la première chose à laquelle je pense, c'est surtout que ces déclarations-là, elles sont déjà contre-productives envers ton coureur. Mais imaginez l'encadrement, les directeurs sportifs, samedi au briefing, la veille, le vendredi, quand il va falloir. Parler au briefing, ne serait-ce que dans la vie quotidienne de l'équipe, l'impact de ces déclarations-là, en fait, ça a un impact sur tout le monde. Et à part de l'idiotie, je ne vois pas, je ne comprends pas le timing. Si on met le contenu à part, déjà qui est absolument choquant. Le timing sportif, je ne le comprends pas. Il imagine quoi que ça va le piquer et qu'il va faire 50 bornes devant la Visma samedi.
C'est peut-être un management à l'ancienne, peut-être, qui dit ça comme ça, et ça va le faire réagir. Et que Julien va lui répondre sur le terrain, va dire, en alignant les succès cette année parce que c'est ce qu'il a envie. Je sais pas. Moi, j'essaye de mettre dans la tête de Patrick Lefebvre. Je sais pas. Mais ça pourrait être
On reste dans ta tête, je pense que c'est mieux.
Oui, bon, je suis pas sûr. Mais voilà, pour tout ça.
Donc, bon, reparlons du sportif, parce que cette histoire, c'est sympa, mais on est quand même là pour parler vélo.
Et dernière chose, ça va être aussi très embêtant pour lui qui avait l'habitude d'être très médiatisé. Là, un petit peu moins, parce que les performances étaient en train de baisser. Là, je pense que dans le box, parce que c'est souvent des box dans les courses maintenant, pour ceux qui ont l'occasion de voir, il va y avoir beaucoup de monde pour voir Julien Alaphilippe et pour lui poser des questions cette fois-ci. Ce sera donc à l'Omloop Het Nieuwsblad. On va tout de suite aller chercher, allumer la mèche. Voilà, c'est ça, parce que j'ai changé j'avais oublié presque.
Ah, tous les jingles ont changé.
Non,
t'as bossé cet hiver,
non,
toi.
C'est un que j'avais repris d'avant.
D'accord.
Donc on va maintenant allumer la mèche, même si tu l'as déjà bien allumé, Jérémy.
Allez, mon petit, on en remet là, on en remet.
Voilà, je ne sais plus où était mon conducteur. Donc, on veut parler quand même de l'Omloop Het Nieuwsblad autrement que par le prisme des clashs et autres propos, parce qu'il y a quand même une course qui va se dérouler ce week-end. C'est le week-end d'ouverture. On adore les classiques, vous savez, ici dans Saderail, même dans le monde du cyclisme. Et donc, nous avons en grand favori Wout Van Aert. On a parlé d'inquiétude, pas inquiétude. Maintenant, la question, elle est posée. Van Aert est-il largement favori de cette course, Jérémy?
Van Aert n'est pas largement favori, mais son équipe l'est.
Ah,
après,
donc,
comment
plus
est-ce qu'ils vont gérer en interne? Oui, quand tu vois la structure de l'équipe, oui.
Et je vais donner l'équipe d'ailleurs. Van Baarle, Laporte, Benoît, Stratnik, Jorgensen et Affini, je crois. Et sachant que
Benoît est le tenant du titre, si je ne dis pas de titre.
C'est Van Baarle.
Et Laporte était sur le podium de mémoire devant.
Comme quoi, les équipiers peuvent aussi briller ce genre de course.
Oui, et Laporte est un petit peu malade d'ailleurs par rapport à ça. Je vais donner comme petite info de la type qui nous a donné comme info.
Il a été malade.
Il a été malade, voilà. Il a été malade et peut-être pas à 100%. Bref, Théo, alors toi, est-ce que c'est Van Aert ou est-ce que Team Visma, alors du coup? Parce que moi, je voyais bien Van Aert largement favori, mais...
Ben, comme l'a dit Jérémy, le collectif de la Visma Lease a Bike est absolument énorme. Je crois que c'est en termes de statistiques et de points, si on ajoute les points de chaque coureur par rapport sur une tranche d'un an, c'est le meilleur collectif qu'on a vu en 15 ans sur le Nieuwsblad. Donc ça situe un petit peu. Le fait de... Souvent, on se gosse de dire « Oui, c'est leur première course, on ne sait pas trop où ils en sont, machin, etc. » Bon, ils nous ont montré que depuis deux ans, à chaque fois qu'ils débarquaient sur le Nieuwsblad et qu'ils faisaient leur reprise,
ils étaient faramineux. Donc moi, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas encore Ismaël is the bike extrêmement dominatrice. D'autant plus que ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'est qu'ils ont dynamité tout à 100 bandes de l'arrivée. Moi, je l'ai crois complètement capable de faire la même chose samedi.
Ouais, d'ailleurs, dans le chat, et on en parlera tout à l'heure pour les paris, il y a 5 coureurs dans les 7 premiers, enfin les 7 favoris des bookmakers. Imaginez-vous pour juste pour la Visma.
Du coup, c'est très difficile de parier.
Bah oui, et ça sera très difficile de parier tout à l'heure, mais ça, on verra ça après. Olivier, du coup, qu'est-ce qu'on en Belgique, qu'est-ce qu'on dit, qui est le favori? Est-ce qu'on dit quand même que Van Aert a la plus grande chance de remporter cette course, ou on dilue un petit peu avec tous les autres coureurs autour?
Il n'y a pas vraiment un favori qui se détache. Je pense qu'il y en a 5-6, parmi lesquels donc les 3 Belges, Wout Van Aert, De Ligt et Jasper Philipsen. Mais alors, on cite souvent aussi Van Baarle, comme c'est le vainqueur sortant. On cite Tratnik qui sort...
Team Tratnik, ici, beaucoup.
Qui ne sait pas et qui a fait des résultats intéressants. D'ailleurs, quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'en Belgique, il y a une tradition, c'est que chacun fait son équipe sur un site qui s'appelle le Sporza Wheeler Manager, et donc on interroge les coureurs sur les coureurs qu'ils vont mettre dans leurs équipes. Et Wout Van Aert, qui va en faire une aussi, a dit qu'il ne se prendrait pas et qu'il prendrait plutôt Tratnik.
Ah.
Donc ça veut dire qu'on croit en Tratnik chez Jumbo pour les classiques. Voilà, donc ça veut déjà tout dire.
Oui, d'ailleurs, Tratnik, qui fait partie des favoris, très bon en montagne. On l'a vu suivre un maximum Selkeus dernièrement. Avec Théo, on est très team Tratnik, hein, parce que franchement, le mec, il dit pas qu'il arrive de nulle part. C'est juste que c'était des genres de coureurs.
Il arrive de Bahreïn, il n'arrive pas de nulle part.
Oui, mais déjà, oui. Non, mais c'est des coureurs qui tout d'un coup performent au-dessus de tout. Et voilà, c'est
mais Tratnik est extrêmement fort. Et effectivement, il va falloir compter sur lui, d'autant qu'il peut dynamiter la course de très loin. Par contre, toujours se méfier des déclarations d'avant-course, surtout des crossman. Et en l'occurrence, on est toujours très surpris les hivers en écoutant les interviews avant et après les courses, parce que la version en général, elle prend des contre-allées.
Et elle diffère. On a parlé de Jasper Philipsen, Théo. Est-ce que pour toi aussi, c'est l'un des favoris de cette course? Parce que Jasper Philipsen a aussi un petit peu un statut à aller chercher. Parce
rentrée
qu'il a
pas... aussi, non, pour Philipsen
rentrée, ouais. Mais
c'est le seul bémol que je dirais, sinon évidemment.
Mais parce qu'il y a
montre-moi son équipe aussi à Philipsen. Avec tous les mecs de la Visma, là, s'il décide d'attaquer.
Vantrich, Trisbeck, Boven, Hermans, Gogel.
Bon, c'est pas non plus la folie.
C'est honnête, mais bon, le collectif est quand même
collectivement,
bien plus faible.
Il y a 2 étages en dessous, hein, quand même. Hein.
Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas Mathieu Van Der Poel qui n'est pas là. Donc, Het Nieuwsblad, Philipsen doit aussi marquer des points, parce qu'il y a quand même un leadership à aller chercher, étant donné que Van Der Poel a remporté pas mal de grands courses dernièrement.
Pour te répondre là-dessus, le leadership, a priori, pour Milan-San Remo, ne devrait pas changer. Mathieu Van Der Poel sera leader. En revanche, et ça avait été annoncé il y a très longtemps, Philipsen devrait avoir sa chance sur Roubaix. Maintenant, le rendre, en général, c'est plutôt propriété et plutôt propice aux qualités de Mathieu. Mais parenthèse refermée.
Mais bon, Théo, il y a quand même un coup à jouer pour Philipsen dans son équipe, et même chercher une victoire et montrer qu'il a progressé encore dans ses classiques.
Ouais, évidemment. Mais après, il y a d'autres Belges. Je pense que je parle sous le contrôle d'Olivier. Tim Wellens, l'année dernière, était très très fort.
Fait partie des favoris.
Et c'est clairement la carte UAE quand Pogacar n'est pas là, et surtout que Pogacar se désintéresse un petit peu des classiques cette année. Donc je pense vraiment que le Belge a toutes les cartes à jouer cette année pour être très fort. Il y a l'ajout de Nils Polite également, qui sera là un peu comme à la Tratnik pour partir d'un peu plus loin. C'est clairement un gabarit qui ne sera pas non plus brillant dans les monts, mais qui est capable de les passer. Et puis Arnaud Delis également, qui a faim, qui s'est entraîné comme un damné à faire des cols cette année et préparer un petit peu différemment lui aussi cette saison de classique. Donc moi, ça m'excite pas mal quand même. Mais je pense que du côté de la Belgique, il n'y a pas que Wout Van Aert, clairement.
Et Delis deuxième, hein, l'année dernière, puisqu'on rappelle que le podium était aux deux tiers.
En crevant d'ailleurs à 30 ou 40 bandes, je ne sais plus.
Parce que l'année dernière, il y a Van Baarle 1 et Laporte 3 sur les Tisbad, et à Kuurne, donc j'avais dit Benoît, mais Benoît, il gagne Kuurne devant Van Hooy. Donc il y avait 4 Jumbo-Visma dans les 6 des deux courses, et dont les deux victoires.
Après, a priori, ils seront 6 samedi, donc
Si
au lieu de 7.
Si Laporte est malade, tu veux dire?
Où il y a beaucoup de blessés.
Non, je parle chez l'Auto. Ah. Ben là, pour l'instant, à moins qu'on en annonce un septième, mais je trouvais ça bizarre aussi. Mais sur toutes les start lists que j'ai pour l'instant, ils sont 6.
Non, parce que c'est Vermeers. Hein, donc, avec la blessure de Florian Vermeers, Vermeers, si je le prononce à la française. c'est vrai qu'avec sa blessure, c'est vrai qu'on l'a retiré des start lists. Et donc, on ne sait pas encore qui
le remplace. Va...
Mais bon, mais je ne sais pas s'il y a Kampenaerts, mais je pense que Kampenaerts va y être aussi. Et j'ai lu qu'il s'était très bien préparé aussi pour les classiques, donc ça va être très, très, très intéressant.
Je donne aussi deux noms de d'autres coureurs, notamment, qui sont présents sur cette course. Mohoric devrait être là.
Guermet. Ouais, il ne faut pas oublier Mohoric, parce qu'en Espagne... C'était pas mal.
Ouais, surtout
c'est un pilote. Hein, ouais. C'est un pilote, votre ami. Là.
Kung est là aussi. Bettiol, Steuven, Lascano, donc Deli, on en a parlé. Pour les Français, donc Laporte, c'est bien sûr le numéro 1, même si on a dit il a été malade. Mais il y a Florian Sénéchal qui fait sa première classique avec Arkea. Zinglé aussi pour la Cofidis. Jérémy, par rapport aux Français, est-ce que tu vois Sénéchal bien performé, Laporte quand même largement au-dessus?
Mais c'est très difficile à analyser ce Etnews-Bad parce que ça arrive quand même assez régulièrement aussi. Au sprint, donc par rapport à tous les noms que tu as cités, c'est pas aux Français à qui je pense en premier, mais oui, curieux de voir quand même les performances des uns et des autres, parce que ça donne une idée des états de forme avant les principales échéances, les autres semi-classiques, Gent Wevelgem qui va arriver, Grand Prix E3 et puis les deux monuments. Donc il faut quand même être dans le ton. Si tu fais DNF ou si tu finis à un quart d'heure, c'est rarement bon signe, mais il faut pas non plus en tirer trop d'enseignements. Mais intéressant quand même, Sénéchal, c'est une bonne carte pour Arkea. Zinglé, il était bien.
Ouais.
Très bien autour de la Provence, alors qu'il s'était pris une énorme boîte sur le Grand Prix de la Marseillaise. Et puis, bon, la porte à la Philippe, on en a parlé.
Excité quand même, Théo, Olivier, pour cette course, parce que c'est vrai que des fois, on est plus enthousiaste que d'autres années. Là, il y a peut-être un petit manque de concurrence, quand même, j'ai l'impression, face à Visma, mais quand même un peu excité de voir ce week-end d'ouverture.
Ah, clairement, oui. Je ne suis pas Théo, mais.
Ah, bah alors,
je pense que l'excitation elle doit être beaucoup plus importante chez vous, mais finalement, Johan, tu disais la Visma est affreusement supérieure à tout le monde. Certes, collectivement, ils sont supérieurs à tout le monde, mais si tu enlèves Mathieu Van Der Poel derrière, il y a quand même une myriade de mecs, oui, qui ne devraient pas être très loin. Si, ok, il manque Pedersen, certes, il manque Mathieu. Mais sinon, il y a des garçons qui ont en fait leur objectif cette année. Je pense à des Jonathan Milan, je pense à des Oyer Lascano qu'on devrait voir aussi pour la première fois un peu performer sur ce genre de course. Non, moi, je suis très, très excité, d'autant plus qu'au-delà de cette course et de l'histoire qu'elle a, évidemment, je trouve qu'elle ouvre la porte à
Christophe.
J'ai pas l'impression que ce qui s'est passé avant ne compte pas, mais disons que voilà, il y a un parfum qui est différent quand même.
Bon, on va s'arrêter là-dessus pour l'Etnews-Blad. On va bien sûr regarder avec attention cette course qui est toujours agréable.
Je dis pas ça parce que je la commente. Hein.
Oui, ah, voilà, bah, ça y est, ça c'est encore donné ces petites pubs là. Et on a fait un quiz aussi il y a deux semaines, donc n'hésitez pas à le regarder.
Ah oui, n'hésitez pas. On donnera pas le vainqueur, mais il est pas là ce soir.
Ah bon.
Non, mais là, oui, la raison, c'est qu'il y a quand même ce petit parfum des classiques
flandriennes
qui sont les plus attrayantes, en tout cas à mon sens. Et il y a déjà ce petit parfum de Ronde et de Roubaix quand tu regardes l'Omloop. Donc c'est, oui, les frissons.
Bon, en parlant de frissons, en parlant de quiz, est-ce que ça serait pas l'heure?
J'allais ramasser aujourd'hui. Oui. Je préfère vous le dire. Il est hardcore.
Je mets le petit jingle et j'envoie un petit message au vainqueur du quiz, du grand quiz, pour voir si jamais il va être présent.
Non, les absents ont toujours tort. Hein.
Bon, bah, je mets quand même le jingle.
Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même.
Oh, j'ai pas compris la question, c'est...
C'est l'heure du quiz, le moment que tout le monde attend avec impatience. Et donc Jérémy, aujourd'hui, ça a l'air d'être costaud. Alors, je suis pas très bien en 2024.
Disons qu'il faut, avoir bien bien suivi le début de saison, parce que je vais vous donner des lignes du palmarès. Alors pas que des victoires, mais des résultats probants. Il faudra retrouver la personne qui correspond aux lignes du palmarès. Évidemment, le chat peut jouer.
Ouais, on me
demande. Pour une fois, je vais être très sympa avec vous. Je ne mettrai pas de limite de proposition. Donc, dès que vous avez une idée, vous pouvez la cracher et vous serez validé ou non. Il y a 10 questions et toutes valent le même nombre de points. En cas d'égalité, Johan ?
Eh bien, c'est la personne qui est le plus gentil qui.
Non, malheureusement, c'est pas ça.
Ça sera tout pour la dernière.
Ce sera tout pour la dernière,
voilà,
effectivement.
Tu vois, j'ai bien suivi.
Allez, c'est parti. Cinquième du Tour de Valence. Deuxième de la troisième étape du Tour de Valence qui était l'étape reine. Et quatrième de l'UAE Tour. De qui s'agit-il ?
Labousse, maintenant. Oui,
non,
Labousse.
C'est pas Juliette Labousse.
Nievadoma.
De l'UAE Tour.
Nievadoma, non, c'était la principale absente. Je vois que tu as bien écouté nos débats.
Parce qu'elle était dans le top 4.
C'est pas Niamh Bradbury non plus.
De Valence. Il y avait qui ? Tac, tac.
Réalini, ouais, bah, comme d'habitude. Hein, c'est Cactus sur un vélo qui met le point. Un point pour le chat. Vous êtes à 3 contre le chat aujourd'hui. Hein.
Ouais, bah on peut perdre. Hein.
On repasse chez les hommes. Huitième du Trofeo Serra Tremuntada. Quatrième de la première étape du Tour des Alpes-Maritimes, quatrième du Trofeo Polenta et deuxième de la Classique Var.
Deuxième de la Classique Var.
Ah ben Johan,
c'est Johan Hussein, effectivement. Messieurs, ça a tardé quand même. Hein. C'était l'image du début de saison.
Oui, non, mais alors,
un point pour Théo.
Oui, oui, oui. Ouais,
donné, trop
vélo
lent.
Panache ouais, qui a donné, mais trop lent.
C'est parti. Vainqueur de la classique des Almeria. Quatrième de la classique de Valence. Sixième de...
Coy.
Qui ?
Coy.
C'est pas Coy. Sixième de la première étape du Tour de Valence et quatrième du Trofeo Binissalem Andrach. C'est du cyclisme féminin.
Ah.
Vainqueur de la classique des Almeria. Quatrième de la classique de Valence. C'est une nouvelle recrue chez Movistar. En provenance du AE, en provenance également de la Valcar, une coureuse canadienne, Olivia Baril. Merci à Cactus sur un vélo.
Non, mais alors là, tu nous as perdu, c'était dur.
On repasse chez les garçons. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a plus que... Non, il y a encore une dame, mais il n'y a plus que des hommes dans les prochaines questions. Un homme qui a fait troisième du tour de la région de Murcie, quatrième de la Jaén Paraíso Interior, cinquième de la Ruta del Sol, ou plutôt du chrono de la Ruta del Sol. C'est un coureur qu'on a cité parmi les possibles outsiders du Het Nieuwsblad.
Combien du chrono ?
Cinquième.
J'allais dire Ghana, mais non.
Wellens ?
Wellens !
Oh,
Théo égalise avec le chat. De partout. Les autres, faut se réveiller peut-être. Hein.
Non, mais là, j'y arrive pas. Je t'ai dit, c'était plus compliqué cette année, mais je vais y arriver.
Là, j'ai que deux résultats à vous donner, mais deux résultats qui peuvent vous aiguiller. Ouais. Sixième de la Muscat Classique et sixième du Tour d'Oman.
Ça, c'est tout ce qu'on a.
Oui.
Est-ce qu'on aura le droit
C'est un coureur connu, hein. C'est un coureur connu qui a changé d'équipe en intersaison. C'est Warren Barguil.
Bien joué. C'est Théo ?
C'est Théo qui prend le point. Celui-là, il est plus compliqué. À mon avis, vous avez cherché un petit moment. Troisième du Tour de Colombie. Vainqueur de la Vuelta à Táchira.
Restrepo.
Restrepo ?
Non.
Restrepo.
Troisième du... Toujours pas. Troisième du championnat d'Équateur du contre-la-montre.
Carapaz.
Caicedo ?
Caicedo. Bonne réponse pour Théo.
Il y a quelqu'un qui a sorti Mancebo. Ça, c'est beau.
Mancebo, oui, c'est bien
ou
tenté.
Sevilla, j'aurais dû donner Sevilla, tiens.
Allez, on est reparti. Troisième de l'Étoile de Bessèges. Et troisième également du chrono de l'Étoile de Bessèges. Dixième du Trofeo Polenta et cinquième du Trofeo Calvia. On cherche un coureur italien. Vainqueur d'un monument par le passé.
Troisième de l'Étoile de Bessèges.
Il avait remporté la première étape du Down Under l'année dernière. Oui, Olivier ?
Ah, ça a été donné Bétiol.
C'est Bétiol, ouais.
C'était donné dans le chat.
On va mettre un point aux deux. On va mettre un point à Olivier et un point au chat. Ça fait 4-3-1. Et Johan Tritz
Non, mais j'avais prévenu.
T'as pas beaucoup regardé. Hein.
Non, j'ai moins regardé cette année.
Beaucoup
malheureusement.
De travail pour Johan Tritz.
Tout à fait.
Heureusement.
Et en vacances.
Allez, on continue. Septième du Trofeo Calvia, c'est un homme. Cinquième de la Figuera Champions Classic. Ça va peut-être parler à Olivier, puisqu'il en a parlé tout à l'heure. Deuxième du Trofeo Polenta. Et surtout, le jour de la victoire de Van Aert sur la troisième étape de l'Algarve, il a fait troisième du sprint.
Et Oliveira, non, il fait
non,
deux.
Non, il fait deux. Mais on cherche un sprinter, effectivement, vous l'avez bien compris.
Arvid De Kline.
Arvid De Kline, c'est pas bon. C'est pas loin, mais c'est pas bon.
Ah,
c'est pas loin.
Mais...
C'est... Il a dit quoi ?
J'ai pas entendu.
Moi, je le sais. Mais... Oui, il a raison.
Moi, j'entends Verhoeven.
C'est pas... Et il dit Mayhofer.
Mayhofer, ouais. Ok, Mayhofer, effectivement. Le point pour Olivier. Calcul sur un vélo, trop tard. Ça fait 4-3-2. On cherche une dame désormais, 8e du championnat d'Australie du chrono, 2e de la première étape du Down Under remportée par Ali Wollaston, 4e. Grace Brown, c'est pas bon. 8e du championnat d'Australie, t'es pas sympa avec elle. 4e des deux premières étapes de l'UAE Tour. Donc c'est une sprinteuse. Et elle a pris à 3 reprises la 2e place de Critérium en Australie, dont le championnat d'Australie
Ruby
du Critérium. Ruby Rosman-Gannon, c'est une mauvaise réponse. C'est une coureuse de la Jayco, hein, effectivement, mais c'est pas la bonne.
J'ai pas du tout. Alors moi, je botte en touche et je crois
elle
que le chat
cette
aussi.
Question.
C'est, je crois que ce
je laisse
chat...
encore 3. Ouais,
Georgia.
Ouais, ça c'est bon. Ça fait 4-3-3. Georgia Baker, effectivement.
Ah, c'est allé sur
non,
PCS.
Ça fait 4-4-2, pardon. 4-4-2. C'est une
belle compo.
Un schéma offensif.
Ouais, une belle compo.
Du coup, il n'y a plus que le chat et Théo qui sont susceptibles de gagner. Donc,
attends. Est-ce qu'ils peuvent prendre un joker?
Un joker.
Bah, genre, Théo, choisis la personne qui va jouer avec toi, comme ça on te donne
le
point.
Allez, si tu veux.
Non, Théo, tu préfères jouer avec moi ou avec Olivier pour la dernière
T'as le droit à un renfort et le chat à l'autre.
Bah, étant donné que t'as rien vu, je vais prendre Olivier.
Je te préviens que si je donne la dernière réponse, alors là, tu vas en entendre parler, mon gars. Mais j'aurais fait la même.
Alors, j'espère. Ouais, c'est bien rec, hein. C'est bien en rouge. Allez, c'est parti. Musique de suspense. Non, on n'a pas ça. Hein. Non, c'était que pour alors, le quiz que vous pouvez regarder sur YouTube, je vous rappelle. Oui. On cherche. Le 2e de la Classique de Valence, 10e du Grand Premio Castellón, le 7e de l'Alula Tour, dont une 2e place.
Brian Coquard.
Brian Coquard, exactement, la victoire pour Théo.
Il a été la chercher toute seule, cette victoire.
Je sais pas où tu partais là, mais victoire de Théo au jeté de vélo devant le chat et Cactus sur un vélo qui, comme d'habitude, a été très bon. Et puis McFly, quand même, hein, qui a marqué sur le site féminin.
Bravo donc à Théo qui a remporté ce petit
le
quiz.
Premier quiz de l'année.
On l'a pas fait dans du tout premier ?
Ben non, puisque c'était les annonces, il me semble pas.
Ouais,
bah si.
Il y a c'est Rémi qui a remporté
c'était un
le
quiz. Ah ouais, c'était un quiz vraiment improvisé parce qu'on bossait sur le gros quiz.
Tout à fait. Donc c'est quand même victoire de Théo qui en plus
sort la plus belle punchline de la soirée. Donc
oui,
bravo
tout
Théo.
Tout à fait. Et il a bien eu raison de ne pas me prendre, même si bon, ça n'a pas changé grand-chose. On va quand même parier pour terminer très rapidement sur le vainqueur du Het Nieuwsblad. Vous allez me le donner tout de suite.
Ah, c'est même pas vrai.
Bon, qu'on met qui parie, c'est vrai.
Alors, je vais juste vous donner les favoris dans l'ordre. Donc, nous avons Van Aert numéro 1, devant Laporte, Dely, Van Baarle, Tratnik. Donc, on a déjà beaucoup de Visma, Philipsen, Pidcock, qui est bien là, on a oublié d'en parler.
Il y a Pidcock aussi ?
En tout cas, qui est annoncé, attention. Wellens, Benot, Jorgensen et Mohoric dans l'ordre.
Ça, c'est dans l'ordre des cotes.
Dans l'ordre des cotes. J'ai même les cotes, si tu veux les avoir, je les ai quelque part. Tac, sur un site de Paris dont je ne donnerai pas le nom.
En vrai, on a tous envie de jouer un Visma, mais c'est tellement difficile de savoir qui va avoir l'opportunité.
Van Aert, 3,75, Laporte 8, Dely 9, 10, Van Baarle, 15, Tratnik, 15, Philipsen, 18, Pidcock, 20, Wellens, 20, Benot, Jorgensen 20 et Mohoric.
Bon,
22,
à 30. Non,
et Milan à 30.
Oui, tu as 22. Ouais, à 22, c'est Milan qui a 30. Ok.
Alors, Jérémy, tu es le premier à te lancer, tu as les codes sous les yeux.
Ouais. Mais
pour le vainqueur.
C'est difficile d'aller contre les Visma et en même temps, comme ils sont 5 à pouvoir gagner,
c'est
un peu la pièce. Donc, en cas de sprint massif, s'il est là, c'est Philipsen qui gagnera. Donc, pour une cote à 15. J'ai quand même envie de jouer Philipsen, mais en pensant quand même que ça sera compliqué d'arriver au sprint, ce qui est quand même probable que ce soit un Visma. Mais
ça fait 2 ans que ça n'arrive pas au sprint quand même.
Ouais, c'était qui ? C'était Ballerini le dernier qui avait gagné ?
Ouais, si.
C'était quoi ?
C'était
2022 ?
Bautzel.
Ouais, yes, moi je suis
moi
Philipsen.
Et l'année dernière, Van Baarle seul aussi.
Ah oui, c'était il y a 2 ans, Ballerini. Bah, mais moi quand même, Philipsen. En fait, j'ai pas envie de choisir les Visma.
Tu préfères mettre Philipsen vainqueur ou 2 Visma sur le podium ? Par exemple, en termes de paris, si tu avais à choisir.
Bah s'il y en a un qui arrive seul, et si c'est Wout qui arrive seul, qui va aller faire 2 sur le podium devant Dely et Philipsen ? Et ton pari
Non, mais se dire, soit tu as 2 Visma sur le podium, soit tu donnes le vainqueur. Est-ce que tu préfères mettre 2 Visma sur le podium, disons qu'elle est 2 sur le podium ?
Non, c'est ce que je suis en train de t'expliquer, okay. Je trouve que c'est trop risqué. Par contre, si tu me dis c'est un Visma qui gagne, je te joue la cote, c'est un Visma qui gagne.
Elle est 1-0.
Mais vu que Philipsen est à 15, je préfère jouer Philipsen.
Bon, Théo, t'as le temps de réfléchir. Tu mets quoi ?
Wellens.
Wellens, alors Wellens
il est bien.
20,
Wellens il est à 20, ouais.
Ok, Wellens. Olivier,
petite question, est-ce que Philipsen il fait Kurn le lendemain ?
Moi j'allais te demander la météo par rapport à Wellens.
Est-ce qu'il y a des bordures dans les 20 premiers kilomètres? Alors, Philipsen n'est pas annoncé le lendemain.
Mais attends, t'es même pas dans son équipe,
je suis
là.
Pas du tout, parce que j'ai. Philipsen, si
tu regardes là, c'est la mauvaise équipe.
Non, mais parce que dans la Startis, c'était en deuxième Alpecin, et là, du coup, ils sont plus loin derrière. Autant pour moi. Olivier, il est annoncé, mais pas officialisé.
Ouais, enfin, il est quand même bien, hein, okay. A priori.
Ok, donc s'il ne gagne pas, il fera Kuhn-Bruxelles-Kuhn. Non, moi, je vais mettre Arnaud Dely.
Attends, tout ça pour ça? Donc, tu me demandes s'il y a Philipsen le lendemain, tout ça pour mettre Arnaud Dely?
Oui, parce que comme il est là, il peut se racheter, donc il donnera pas tout. C'est ça la logique.
Non, mais c'est un enfer.
En général, c'est qui les Belges que t'as ramené
C'est une catastrophe.
Mais en général, on se rachète sur Kuhn. C'est la tradition.
Moi, j'aimerais savoir des choses quand même, rien à voir avec le débat de l'Omloop. T'as mis un message, Johan, durant l'hiver pour avoir des spécialistes de tous les pays. Canada, Allemagne, Espagne, Italie. Comment ça se fait qu'on a encore récupéré un Belge? On en avait déjà deux.
Alors, parce que les autres, j'ai eu un Norvégien, je crois, Allemand, etc. Mais c'était trop compliqué. J'ai pas eu autre chose que des Belges. Il y a que les Belges qui veulent parler sur le vélo.
Belges. Bah écoute, quelque part, c'est un peu normal. Et quel temps, Olivier, chez toi, là, samedi?
Namur.
Parce que le Paris Wellens, si jamais il pleut des trombes d'eau, ça peut être une bonne idée.
Pour l'instant, là, c'est pluie, donc...
Oui, je te demande pas le temps maintenant, hein. Parce que là ça roule pas, hein.
Non, mais il est en train de regarder sur... En fait,
il regarde sur la vidéo, bah. Nous, on met Google, hein. Mets Google, tu vas... C'est où, c'est quoi la ville?
Donc là... attends. Samedi, pluie.
Oui, merci Catherine Laborde. On va se débrouiller tout seul.
Vous ne connaissez pas Catherine Laborde là-bas. Merci, la présentatrice de Belgique. Donc, du coup, pluie. Alors, on va dire pluie. Ouais, moi, je mets Tratnik quand même.
On va dire pluie. Sans les pneus slick.
Je mets Tratnik, évidemment. Je pense qu'il va largement dominer la concurrence. Je ne vois pas pourquoi.
Mais Tratnik, c'est un très bon pari à 15 aussi.
Mais de toute façon, Team Tratnik cette année. Je vois bien gagner Paris-Nice. Si tu vois, il est parti pour nous faire des dingueries.
Paris-Nice?
Oui. Attends, il arrive à monter vachement bien quand même.
Juste quand même, pour ceux qui ne nous connaissent pas depuis longtemps. T'avais misé Henrik Maas au Dauphiné, donc voilà, les paris d'Johan, ça vaut ce que ça vaut.
Bah, si vous voulez perdre de l'argent, c'est maintenant. C'était bon, on va s'arrêter là-dessus.
Il est 20h13,
c'était très agréable de passer ce moment en votre compagnie. Merci à tout le monde d'avoir participé à cette émission. Ça a été animé dans le chat.
Le chat, depuis la fin du quiz, il n'y a plus personne.
Évidemment, parce qu'ils n'ont pas envie de perdre de l'argent. Merci, messieurs. On se retrouve donc après le Grand Prix. Le week-end d'ouverture donc de cette saison, et on se verra avant des grandes classiques qui arrivent, et aussi Paris-Nice. C'est très bientôt. Salut à tous.
Ciao.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.